premier temps d'une nouvelle série de 3 émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire telle qu'elle s'écrit aujourd'hui en Tunisie, 5 ans après la Révolution. Demain, mardi, nous nous promènerons dans le musée du Bardo à Tunis qui a connu, il y a un peu plus d'un an, un terrible attentat en nous intéressant à la façon dont il est le miroir de l'histoire telle qu'elle s'est racontée et qu'elle s'est écrite depuis plus d'un siècle en Tunisie. Mercredi, nous diffuserons un débat enregistré à l'Institut français de Tunisie que nous remercions ainsi que l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain qui tous les deux donc ont rendu possible cette série d'émissions à Tunis et en Tunisie. Débat avec des jeunes docteurs et des jeunes doctorants qui nous expliquent en quoi l'histoire qu'ils écrivent aujourd'hui en Tunisie est différente ou non de celle de leurs aînés d'avant la Révolution. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans le matériau qui permet à l'historienne et à l'historien de faire son travail, les archives, en nous rendant dans une balade aux Archives nationales, donc en nous rendant à Tunis dans ce grand bâtiment qui longe un boulevard, grand bâtiment bleu et blanc avec les drapeaux tunisiens qui le parent, drapeau rouge et blanc. Et bien justement, en se rendant dans ce bâtiment, nous allons comprendre comment ces archives sont accessibles avec Eddy Jalab qui dirige les Archives nationales de Tunisie et qui est historien, et Nessim Znaïen, qui est un jeune doctorant en histoire. Monsieur Eddy Jalab, vous nous accueillez dans votre bureau, vous êtes le directeur des Archives nationales ici à Tunis, un grand bâtiment qui est au bord d'une avenue, un bâtiment qui date d'une vingtaine d'années et qui surplombe Tunis. Et dans votre bureau, avant que nous descendions, nous promener dans les réserves de ces Archives nationales pour voir la richesse de ces archives, vous avez voulu nous sortir 2 ou 3 documents écrits à l'encre avec un beau tampon sur le côté haut à droite. Qu'est-ce que c'est ?
C'est le pacte fondamental. C'était une sorte de déclaration de droit faite par le Bey en 1857 et qui garantissait pour les Tunisiens le droit de propriété, la liberté de culte et le droit de se déplacer, de faire du commerce, des mêmes produits qui étaient auparavant le monopole du Bey. Et ces droits attribués aux Tunisiens et aux étrangers.
Dans une période de transformation profonde de la Tunisie, le milieu du 19e siècle est une période assez bouleversée. Et d'ailleurs, le deuxième document que vous nous avez montré, sous verre, lui est plus petit, toujours écrit à l'encre, et il date de 1846. Qu'est-ce que c'est ?
C'est l'abolition de l'esclavage. C'est la décision du Bey, Ahmed Bey, d'abolir l'esclavage. C'était quelques jours avant de partir en France pour une visite officielle. Mais avant ça, il a pris une décision en 1842 de fermer les places et les marchés, les souks, où on vendait et on achetait des esclaves.
C'est une période de profonde modernisation, de volonté de transformation. On dit d'ailleurs que dans le cadre particulier de l'Empire ottoman, la Tunisie est à l'époque remarquable, puisque c'est ici qu'on va inventer la première constitution, d'une certaine façon, de la Tunisie.
Justement, c'est on a ici le texte de la première constitution tunisienne, enfin la deuxième, parce que Carthage avait aussi une constitution. C'est la constitution de 1861. C'est une constitution moderne qui garantissait la séparation des pouvoirs et qui mentionnait que le Grand Conseil créé par cette constitution peut destituer le Bey. C'était la première constitution dans un pays arabo-musulman.
Et donc, effectivement, il va donner le d'une certaine façon, à d'autres endroits, puisque à peu près en même temps, les Tanzimat, qui sont des libertés offertes au sujet du sultan à Istanbul, vont se déclencher également. Oui. Et cela va donner une sorte d'élan, pourrait-on dire, dans tout ce bassin méditerranéen.
Absolument, c'est dans le même contexte. Et au même moment, il y a eu aussi l'organisation des rouages de l'État, création d'un grand ministère. On a ici le texte qui...
Très beau document, sur papier. C'est sur papier ?
C'est sur papier, oui.
Qui a été
restauré, qui a été conservé et restauré. Et on a ici comment ce grand ministère a été organisé avec des départements, des affaires étrangères, finances, affaires intérieures, etc., et qui sont regroupés dans une sorte de pool qui s'appelle grand ministère. On peut dire qu'à partir du milieu du 19e siècle, le BRN ne gouverne pas.
C'est donc son grand vizir qui gouverne à sa place.
Il gouverne, mais malheureusement pour la Tunisie, la situation économique il était telle que on a commencé à perdre progressivement notre indépendance financière, économique, qui a amené
au protectorat.
Un peu au protectorat. Mais sur le plan politique, sur le plan de l'administration de l'État, il y a eu des réelles réformes.
Et ces documents que vous conservez ici, d'une certaine façon, ce sont des documents un peu sacrés pour un pays comme le vôtre. Ça fait partie de ces documents que l'on conserve, par exemple, ou qu'on conservait aux Archives nationales à Paris dans une armoire de fer pour les conserver le plus longtemps possible. Ils sont visibles par les citoyens tunisiens. Est-ce que vous les exposez de temps en temps? Ils font partie de cette...
Non, mais on expose maintenant, grâce à la technologie, on peut avoir des copies numériques presque semblables aux originaux, mais les originaux sont conservés, comme en France, dans des coffres-forts.
Oui, parce qu'effectivement, ça fait partie de l'histoire du pays et d'une histoire qui est peut-être moins connue que cette histoire du 19e siècle, de cette modernisation avant l'arrivée du protectorat français.
Oui. On n'a pas fait suffisamment de communication là-dessus. Mais parce que la Tunisie, voyez-vous, a été un pays pionnier dans le domaine des réformes, dans le domaine de la création d'institutions. Et d'ailleurs, si on veut comprendre pourquoi la Tunisie a résisté au chaos qui s'est déclenché après les révolutions du printemps arabe, il faut aller un peu loin pour comprendre pourquoi la Tunisie a fait ce qu'elle a fait. Et d'autres pays comme la Libye, la Syrie, l'Égypte ont tombé dans le désordre.
Oui, ça c'est intéressant parce que vous êtes parfaitement dans le thème que nous nous sommes donné. Comment, ce que fait une révolution à l'histoire d'une certaine façon.
Oui.
Et cette révolution tunisienne fait que l'on regarde maintenant un passé que peut-être on ne regardait pas auparavant.
Absolument.
Ce passé du milieu du 19e
siècle. Pour comprendre pourquoi les Tunisiens ne sont pas tombés dans la guerre civile, dans la violence, il faut aller au 19e siècle pour voir comment ils ont construit un État, des institutions et qui, pendant cette révolution, ont bien résisté, ont tenu le coup et la vie a continué presque normalement.
La garantie des libertés en particulier, cette question des libertés.
Oui, parce que les pays étaient prêts à passer dans le cap et entrer dans le giron des pays démocratiques.
Je vous propose que nous quittions votre bureau, si vous voulez bien, monsieur Geleb, et nous descendions dans les fonds que vous conservez ici même aux Archives nationales de Tunisie.
D'accord, avec plaisir.
Là, nous sommes dans une des salles très nombreuses de ces archives nationales, monsieur Geleb, et des cartons d'archives, là aussi très nombreux, sur des étagères bleues et vertes. Et que trouve-t-on dans ces cartons d'archives très nombreux?
C'est les archives du Rassemblement constitutionnel démocratique, c'est-à-dire l'ancien parti au pouvoir de Ben Ali.
Et vous les avez récupérées à quel moment?
À partir de la décision de la justice de dissoudre ce parti, on a commencé à récupérer ces archives. Ça a pris quelques mois pour les récupérer, mais on les a pris intactes.
Il n'y a rien qui a été trié, qui a été détruit par le parti.
Non, parce que le bâtiment a été sous la protection de l'armée dès le 15 janvier. Et comme ça, on a récupéré toutes ces archives, qui sont une mine d'informations.
Et oui, alors, un fonds comme celui-ci, c'est gigantesque, mais est-ce qu'il y a déjà des historiennes, des historiens, des archivistes qui s'y intéressent et qui ont commencé à plonger dedans, parce que ce sont des milliers de cartons d'archives?
Oui, mais comme vous voyez, elles ne sont pas toutes
triées.
Il y a seulement une partie qui a été inventoriée, mais l'instance Vérité et Dignité qui travaille sur la justice transitionnelle a commencé à consulter une partie de ces archives.
Il faudrait que la justice soit passée pour que l'histoire vienne ensuite travailler.
Non, l'histoire peut commencer immédiatement.
C'est-à-dire que si, en nous écoutant, des doctorants en France ou en Tunisie sont intéressés, vous leur dites bienvenue,
absolument.
Vous allez plonger dans ces archives pour
faire
quelque chose.
Absolument, mais il faut au préalable faire la description de ces archives pour connaître le contenu de ces archives pour faciliter la recherche.
Il y a des délais, comme en France, de transmission des archives, en particulier des archives dites sensibles de l'État, du gouvernement, ou est-ce qu'on peut assez rapidement plonger dans des archives un peu sensibles, un peu historiques et politiques, par exemple?
Il y a des délais. Même si, il y a quelques jours, on a promulgué une loi sur l'accès aux documents administratifs, à l'information dans l'administration, mais quand même, il y a des exceptions, et ces exceptions sont gérées par les délais dans la loi sur les archives de 30 ans, 60 ans et 100 ans.
Et pour 100 ans, ce sont les questions...
Le 100 ans, c'est à partir de la naissance de la personne concernée, c'est les dossiers médicaux et les dossiers personnels. Mm-hmm. 60 ans, c'est pour les dossiers sensibles de la sécurité, où il y a des données personnelles.
Et nous avons avec nous un jeune doctorant franco-tunisien qui travaille sous la houlette de Pierre Vermeren à une thèse sur l'alcool et l'alcoolisme en Tunisie. Et justement, dans votre travail de thèse, vous travaillez sur des enfermements psychiatriques, sur des personnages qui ont été arrêtés par la police pendant la période coloniale, puisque c'est la période à laquelle vous vous intéressez, Nessim Znaïen. Vous avez une facilité d'accès justement à ces archives qui sont des archives là aussi médicales ou médicalisées, puisque l'alcoolisme était un fléau, une maladie considérée comme grave, aussi bien en France à l'époque que dans le territoire tunisien.
Oui, c'est vrai que j'ai la chance aux archives nationales d'avoir pas mal d'accès aux archives de l'hôpital psychiatrique de la Manouba qui ouvre en 1931. Et dans les archives de l'hôpital psychiatrique, on a à la fois les registres d'admission et on a également les dossiers des personnes qui sont admises à l'hôpital psychiatrique. Alors, les alcooliques, dans l'ensemble de ces admis, ne représentent qu'une très faible minorité. Dans le meilleur des cas, enfin dans les années les plus fortes, c'est à peu près 5% des admis. Mais effectivement, il y a la possibilité d'accéder pour la période du protectorat à ces personnels, mais parce que bon, c'est aussi une période un peu plus passée que la période actuelle. Et c'est vrai que ce qui est assez fascinant quand on travaille sur l'alcool, c'est que on a accès aux archives que des personnes qui ont une consommation d'alcool qui est exceptionnelle. Parce que évidemment, quand moi ou vous on prend une bière, en général, on finit pas à l'hôpital psychiatrique ni au poste de police. Mmh. Et donc, en fait, 99,9% de la consommation d'alcool n'est pas répertoriée dans les archives parce que elle ne finit pas dans une manière anormale. Et donc, on a accès aux individus qui sont dans un cadre exceptionnel d'illégalité, en tout cas par rapport à la norme fixée à l'époque. Mais du coup, en fait, ça nous fait adapter notre problématique. Et quand on travaille sur l'alcool, il faut bien avoir conscience du fait qu'on travaille avant tout sur les instruments de contrôle et de répression sociale mis en place par le pouvoir, que sont les postes de police, les tribunaux et les hôpitaux, notamment les hôpitaux psychiatriques. Et du coup, ça fait orienter la problématique sous des angles différents, mais ça n'empêche pas de vouloir quand même étudier la consommation générale, et il y a des possibilités d'étudier cette consommation générale, notamment en étudiant les volumes globaux consommés, en étudiant aussi le nombre de cafés, de débits de boissons, ça c'est possible, et en étudiant aussi d'autres paramètres, en faisant des entretiens, en faisant aussi des recherches à travers des sources littéraires, c'est possible aussi d'avoir malgré tout accès à une consommation plus générale de l'alcool.
C'est un sujet, entre guillemets, sensible ou pas sensible? C'est un sujet qui pose problème dans la société tunisienne ou pas? Et d'une certaine façon, est-ce que votre travail est une sorte de miroir, comme on dit souvent, on ne fait de l'histoire contemporain que d'aujourd'hui, de miroir de la société tunisienne d'aujourd'hui?
Alors, tout d'abord, la question de la sensibilité, effectivement, c'est une question qu'on me pose régulièrement, mais il y a plus sensible que mon sujet. C'est-à-dire que je travaille pas non plus sur les services secrets, je travaille pas sur la corruption dans les marchés publics, je vise personne en particulier. Et effectivement, à travers des entretiens, notamment, on peut trouver des questions qui braquent un peu plus les interlocuteurs que d'autres. Malgré tout, il y a quand même un consensus. L'image qu'on me renvoie souvent, c'est de dire que il y a malgré tout actuellement dans la société tunisienne pas mal d'alcool qui circule. Il y a des chiffres qui montrent que il y a de plus en plus d'alcool qui est consommé.
Alors on va quitter cette belle salle dans laquelle vous conservez les archives du RCD, ancien parti au pouvoir du président Ben Ali, avec vous et avec ceux qui nous accompagnent, Eddy Gheleb. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sujet interdit aujourd'hui pour les historiens en Tunisie? Il y a une autocensure, il y a une capacité à traiter tous les sujets, ou est-ce que simplement il n'y a peut-être pas suffisamment d'étudiants en histoire ou d'étudiantes en histoire pour pouvoir justement aborder tous les thèmes possibles de l'histoire tunisienne?
Non, il n'y a, a pas de sujet tabou. On a commencé à ouvrir les archives aux chercheurs, historiens, sociologues, anthropologues, et on n'a pas de... Pour nous, il faut respecter la loi, les délais de communicabilité. Et on peut même faire des exceptions, donner des autorisations pour consulter des archives. Mais il y a aussi un problème de formation, un problème d'encadrement dans l'université pour aller vers des nouveaux chemins, vers quitter les sentiers battus et aborder des nouveaux sujets.
Et des nouveaux thèmes.
Des nouveaux thèmes.
On va quitter cet endroit. Vous nous emmenez où maintenant, Eddy Gheleb?
Dans un autre magasin où on conserve les scieries historiques et les scieries de la période du protectorat.
Une autre partie de ce bâtiment. Nous avons descendu des étages avec vous, Eddy Gheleb. Ce bâtiment, cette partie des archives nationales, c'est quoi exactement? On voit la revue des deux mondes, les revues françaises, en l'occurrence la revue de la Défense nationale, qui sont des revues françaises. C'est une partie qui rassemble quoi?
Qui rassemble, en fait, ce sont deux magasins qui sont communicants. Il y a la série historique et des documents et de la documentation qui concerne la période coloniale.
D'accord. Et on va rejoindre avec vous peut-être, Nessim Znayen, la partie qui concerne la période coloniale, puisque c'est cette période sur laquelle vous travaillez. Vous pensez qu'on peut sortir dans ces archives de police une boîte qui peut vous intéresser d'une certaine façon?
Eh bien, écoutez, oui, on va chercher une. Alors, j'ai pas les codes encore par cœur, mais on va chercher dans celle que je connais. JT1, par exemple, on peut faire le JT1 643. JT1 643.
643. Voilà. Voilà.
Dans une chemise grise, puis une chemise rose, sortie du carton. Les Sims Mayen sur lequel vous travaillez. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce carton d'archives?
Alors, donc là, c'est les archives de la police et c'est les archives des PV de police. Alors, à l'intérieur des PV de police, il y a un certain nombre de PV de police pour vol, par exemple, et il y en a un certain nombre pour ivresse. Et là, on a en face de nous un monsieur. On est le 6 août 1907. Il s'appelle Salah Ben Hajj Mohamed Ben Ali. Voilà, c'est son nom. Et c'est indiqué, donc, sur les archives du PV de police, c'est indiqué qu'il a 20 ans et qu'il habite rue Rémilly, qui est une rue dans la Médina de Tunis. Et alors, ce qui lui est reproché, en fait, c'est son père qui porte plainte contre lui. Parce que donc son père qui a 45 ans, donc là c'est je lis les archives du policier hein, qui a rempli le PV, il voit son fils arriver chez lui, son fils qui est complètement ivre, le père du coup veut lui faire une observation comme tout bon père, n'est-ce pas? Et donc je lis strictement ce qui est marqué. Je lui ai demandé pendant combien de temps cette vie allait durer. Il m'a alors porté un violent coup sur la bouche. J'ai voulu le lui rendre, mais il s'est alors emparé d'une gargoulette, d'un pot de fleurs qu'il a jeté sur moi. Et donc en fait, on peut continuer la lecture, mais ce qui se passe, c'est que le père appelle du coup un voisin qui arrive et qui arrive à maîtriser le fils. Ensuite, il y a un agent de police qui arrive et qui emmène le fils et son père au commissariat. Alors, le fils a une version un peu différente du père, hein, parce qu'il dit que, en fait, son père était tout aussi ivre que lui et, en plus, il lui aurait demandé de l'argent, ce que le fils n'aurait pas apprécié et ça a fini en bagarre.
Qu'est-ce qu'on tire quand on est un historien faisant sa thèse ici à Tunis, comme vous, Nessim Znaïen, d'un document comme celui-ci? Un document comme celui-ci ne parle que pour lui, d'une certaine façon. C'est parce qu'il est inscrit dans une série ou dans des séries qu'au bout du compte, on peut en tirer quelque chose au milieu de tout un tas d'autres documents, en l'occurrence.
Bien sûr. Et ce qui est en fait fascinant, c'est qu'effectivement, c'est un parcours de vie qui nous semble un peu médiocre, comme ça, qui est une personne qui est jeune, qui est pauvre, qui est tunisien et dont on a complètement oublié le nom par ailleurs. Et ce qui est déjà fascinant, c'est de voir qu'en fait, c'est un parcours qui est très banal par rapport aux autres personnes qui sont interpellées pour ivresse publique. Alors qu'à Tunis, il y a la moitié de la population qui est européenne. Ouais. En fait, dans les PV pour ivresse publique, il n'y a que des Tunisiens, ou pratiquement que des Tunisiens.
Vous voulez dire qu'on poursuit plutôt les Tunisiens que les colons ?
Oui. La réponse est oui. Alors, lorsque on trouve des archives des hôpitaux, par exemple des hôpitaux psychiatriques, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup plus d'Européens dans les hôpitaux psychiatriques. Mais lorsqu'il s'agit de la justice et de la police, en fait, on se rend compte que le profil est toujours le même, c'est-à-dire un jeune, un Tunisien, d'une vingtaine d'années en général, alors que dans certaines archives, c'est pas forcément la population la plus représentée, et en général un homme, parce que les femmes qui sont interpellés pour ivresse publique sont rarissimes et en général ce sont des prostituées.
FPC, série E, carton 550, dossier 9, sous-dossier 2. Lettre du caïd de Béja au Premier ministre, 15 août 1905. Intitulé « Un musulman ivrogne, récidiviste, inculpé d'outrage aux agents fauteurs de troubles ». Informé qu'un indigène pris de boisson causait du scandale dans la maison de tolérance tenue par la nommée Founa et qu'il menaçait, entre autres, les filles soumises, je me suis aussitôt rendu sur les lieux. J'ai invité cet indigène au calme et l'ai fait sortir de la dite maison et l'ai invité à me suivre au poste. Il s'y est totalement refusé et en français me dit « Si tu veux faire le malin comme ton collègue Versini qui est agent à Tunis, eh bien, je m'en vais te faire ton affaire. » Aussitôt, il me saisit par la gorge, me porta plusieurs coups de poing dans la poitrine, ainsi que des coups de pied sur le devant des jambes. J'ai eu de ce fait toute ma chemise déchirée, ainsi que des ecchymoses aux jambes et au cou. Il a fallu l'intervention d'un spahi de contrôle, ainsi que de trois autres personnes, pour me rendre maître de lui et l'enfermer à la geôle. J'ajoute qu'au cours de la bagarre, j'ai eu la poche de mon gilet arrachée et une pièce de 10 francs qui s'y trouvait dans du papier a disparu. Réponse du Premier ministre. Confirme la condamnation à 4 mois de prison ferme pour ivresse publique à Tunis.
Nessim Znaïen, vous avez rassemblé dans vos dossiers aussi des publicités, parce que cela permet de voir aussi comment la publicité est faite pour l'alcool. On a sous les yeux une publicité qui doit dater des années 40 ou 50, 1940, même c'est marqué dessus. L'optimisme est une qualité française, on voit un homme bien mis avec sa cravate. qui a un verre de Saint-Zano à la main. Et le texte est assez extraordinaire puisqu'il dit « L'optimiste boit du Saint-Zano parce qu'il sait que son apéritif favori est fabriqué en France, Eugène, à Châteauneuf-les-Martigues et Gennevilliers, par une main-d'œuvre française avec des vins sélectionnés provenant exclusivement de l'Empire français. La société française des anciens établissements Saint-Zano est constituée par des capitaux français. »
Oui, c'est de la méthode Coué. Hein. Effectivement, on est en 1940, donc on essaye de se convaincre, c'est après la défaite, hein, on essaye de se convaincre que on va pouvoir redresser la France avec finalement une rhétorique qui est proche de certaines rhétoriques qu'on entend actuellement sur le fait qu'il faut produire français et manger français. Hein. Et donc à côté de cette publicité, ce qui est assez drôle, c'est que il y a une publicité pour une autre publicité pour une poudre qui s'appelle Quintonine permet en fait de d'avoir une meilleure qualité du vin. Un vin cher n'est pas indispensable pour préparer de la Quintonine, c'est-à-dire qu'en fait on dit bon voilà, on sait très bien qu'en temps de guerre on boit de la piquette, donc on va rajouter de la poudre et ça va faire un super vin. Et donc du coup vous qui n'avez pas assez d'argent pour vous payer un super vin, il suffit juste d'acheter la poudre et tout va bien.
C'est quoi travailler pour vous sur cette question de l'alcoolisme sous le protectorat, Nessim Znaïen? C'est développer un type d'histoire qui est nouveau. Vous l'avez commencé, cette thèse, juste après la Révolution. Vous en avez eu l'idée avant la Révolution. Qu'est-ce que ça change pour vous de traiter de ce sujet-là dans un contexte de bouleversement social et culturel dans un pays comme la Tunisie?
Bah, déjà, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est faire de la recherche et une thèse de l'histoire vue d'en bas. Et travailler sur la Révolution, ça donne sens à ça. C'est-à-dire que ce sont aussi les classes populaires qui font l'histoire, que ce soit sous la Révolution française ou sous le protectorat. Et puis, travailler sur l'alcool en Tunisie sous le protectorat, c'est aussi essayer d'en finir avec certains préjugés culturels. C'est-à-dire essayer d'en finir avec, moi, ce que j'appelle la Tunisie couscous, huile d'olive, thé à la menthe. La Tunisie carte postale, celle qui a été promue par le régime de Ben Ali pendant des années, notamment pour attirer des touristes. Et je fais pas une thèse sur le couscous, je fais une thèse sur l'alcool. C'est un produit de la culture matérielle, mais c'en est quand même un autre. Le moment colonial a, il me semble, du sens par rapport à la Révolution pour moins de raisons. Déjà, c'est une période qui s'ouvre avec un choc culturel dans lequel qu'on n'a peut-être pas tout à fait résolu, un choc culturel notamment vis-à-vis des élites traditionnelles, celles de la Zitouna notamment. Et travailler sur l'alcool permet aussi de mesurer ce choc culturel. Et puis la période du protectorat, à travers les archives que j'étudie, les archives du contrôle social, que sont les commissariats de police, les tribunaux, les hôpitaux, c'est aussi étudier la mise en place d'un État qu'on appellera plus tard l'État policier.
Oui, mais c'est aussi travailler sur une société qui est peut-être plus mobile qu'on ne l'a dit généralement, c'est-à-dire que ces cafés qui théoriquement sont plutôt dans des quartiers européens sont aussi fréquentés par des Tunisiens où il y a peu d'Européens, et d'une certaine façon il y a peut-être plus de mélange que ce qu'on veut dire de ce qu'était la Tunisie d'avant l'indépendance.
Oui, bien sûr. Quand on travaille sur l'alcool et sur les cafés notamment, on travaille avant tout sur des métissages, sur des moments où peuvent se rencontrer les Européens, les sociétés des colons et les sociétés des colonisés. Et effectivement, il y a des mélanges, il y a des échanges qui se font, mais ce sont des échanges que une partie des élites, que ce soit des élites colonisatrices ou des élites colonisées, ne veulent pas. C'est-à-dire que les Français ne veulent pas, l'administration française ne veut pas que les colonisés consomment de l'alcool. Pour des raisons qui sont officiellement des raisons de contrôle public, mais en fait qui sont des raisons culturelles. C'est un produit français, l'alcool, et aux yeux des Européens. Et c'est complètement anormal que les Tunisiens consomment aussi de l'alcool. Tous les bons nationalistes qui se respectent sous le protectorat ont au moins un discours sur le fait que l'alcool abrutit les masses, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres endroits de l'Empire français, Ho Chi Minh, par exemple, en Indochine, ou même d'autres nationalistes, je pense à Gandhi, qui a un peu cette rhétorique qui est peut-être issue aussi du discours comme quoi les Anglais ont essayé d'affaiblir les Indiens d'Amérique en les abrutissant d'alcool. On retrouve ce discours-là parmi les élites nationalistes, mais à l'inverse, on retrouve un certain nombre d'écrivains, de poètes, de chanteurs aussi, à l'époque du protectorat, d'un groupe littéraire qui s'appelle Tahrt el-Sour, qui promeut au contraire la consommation d'alcool. À travers sa figure de proue qui est la plus connue, qui est le poète tunisien Boukassem Chebbi.
On voit le plaisir que vous avez à entendre donc Nessim Znaïen et Eddy Jelleb raconter certaines des histoires qu'il a trouvées dans vos archives, parce que tout compte fait, ces archives, elles ne vivent que par ceux qui les, que par les regards de ceux qui les parcourent. Absolument. Sinon, elles, ce sont des archives mortes.
Absolument, absolument. C'est miraculeux, les archives. C'est le grenier de l'histoire. Les archives, c'est elles ont deux aspects, un aspect matériel et un aspect signifiant. C'est-à-dire, pour la mémoire et pour l'histoire, c'est essentiel. On ne peut pas écrire l'histoire, on ne peut pas plonger dans la mémoire collective sans matériaux, sans archives. C'est un don d'une génération à une autre.
ظهرت جوانتك من توا لا نحب تخرني لا دوا معروفة عند أولاد حوا ما تظنش روحك معزوزة يا خبيثة يا خبيثة يا خبيثة يا خبيثة يا خبيثة يا دبوزة بيك نسها بيك نحكي بيك أعز ما عندي حكيتهول وانت عاملة منبوزة يا خبيثة يا خبيثة.
Dans ce titre de la fin des années 30, le chanteur tunisien Salah Remissi chante Yadabouza, toi la bouteille. Il se plaint d'être amoureux d'une bouteille de vin qui reste indifférente et froide à ses avances, et il finit par lui reprocher d'avoir causé tant de morts et de maladies mentales.
شيطان فيك حسرت وعجوزة يا خبيثة يا خبيثة يا خبيثة يا دبوزة بيك ننسى بيك نحكي بيك ننسى عز ما عندي شكيتهولك وانت عاملة منبوزة يا خبيثة يا خبيثة يا خبيثة يا دبوزة.
Hassan Zeghirni, vous êtes avec nous, vous êtes sous-directeur de ces archives, c'est vous qui nous avez sorti ces cartons d'archives là. Vous les parcourez de temps en temps, vous êtes aussi intéressé par connaître ce qu'il y a dans les archives que vous conservez vous-même, Hassan Zeghirni?
Oui, notamment, mais notre profit c'est de bien traiter.
Conserver?
Oui, conserver et traiter. Les traitements intellectuels des dossiers. Il faut savoir comment décrire les dossiers, description du contenu et l'extraction du descripteur par lequel le chercheur peut trouver l'information dans le temps possible, le plus possible. Par exemple, c'est l'étiquette, c'est la fiche descriptive du dossier. La référence, c'est le fond et la série, ensuite le carton. Oui, après les dossiers.
Et donc, si on les ouvre, on trouve donc effectivement. Et
voilà
la date.
La date.
1884.
Des pièces.
Des documents qui sont en deux langues.
Les pièces sont numérotées et classées chronologiquement.
Et sur ce document, il y a une écriture, une partie du document qui est écrit en arabe.
En arabe.
Et l'autre partie en français. Donc, c'est le gouverneur qui écrit au ministre et qui lui fait connaître que le califat vient de lui apprendre que les Italiens, dont le nom suit, ouvriers, etc., ont détruit un signal posé par un ingénieur et donc ils sont passibles de poursuites en l'occurrence.
Généralement, c'est la plupart des pièces sont en langue française et parfois on trouve la traduction en arabe.
Il y a une particularité, Eddy Jelleb, c'est que vous avez adopté très tôt, dans les archives nationales tunisiennes, l'idée qu'il fallait aller à la source le plus rapidement possible et pas simplement récupérer a posteriori des archives qui auraient été peut-être pour certaines d'entre elles conservées et d'autres auraient été perdues. Vous avez un travail depuis très longtemps, qu'on connaît dans certains pays, mais pas dans tous les pays, de récupération des archives avant même qu'elles deviennent une archive, d'une certaine façon, quand elles sont dans les ministères.
La définition des archives dans la loi tunisienne, c'est que tout document produit par l'administration. C'est pas seulement les archives dont l'administration n'a plus besoin. C'est-à-dire, on intervient en amont. Premièrement, ça nous permet d'aider l'administration à bien fonctionner, à bien gérer ses archives, c'est-à-dire à bien maîtriser l'information. Et deuxièmement, de récupérer des archives bien triées, bien classées. C'est-à-dire que l'administration, les structures d'archives dans l'administration font une partie de ce boulot. Et la deuxième partie, c'est les archives nationales qui le font après la récupération, après le versement de ces archives.
Ça veut dire aussi que vous récupérez peut-être beaucoup plus d'archives que d'en récupérer vos prédécesseurs il y a 20, 30 ou 40 ans.
Absolument, absolument. Le système commence à produire ses effets et on récupère énormément d'archives de tous les départements, de tous les ministères.
La particularité de ces archives nationales de Tunisie, Eddie Gelev, c'est qu'il y a avec vous des doctorants qui travaillent aux archives.
Oui, on a des doctorants qui travaillent aux archives et qui préparent des thèses, mais aussi qui font la valorisation des archives définitives.
Et vous êtes vous-même historien ?
Absolument, je suis historien. Je suis professeur à l'université et je suis aux archives nationales depuis 1999. Et d'ailleurs, c'est une tradition tunisienne. Les directeurs d'archives étaient presque tous des historiens. Ça reflète la maturité de l'administration tunisienne.
Nous sommes avec M. Itaf Benamar, ici dans l'atelier de restauration. Vous en êtes le responsable de cet atelier de restauration aux Archives
oui.
nationales.
Oui.
Et vous avez sorti pour nous certains de ces papiers qui vous posent quelques problèmes tout de même. Parce que conserver, c'est difficile et restaurer, c'est aussi difficile
oui.
d'une certaine façon.
Oui.
Un document comme celui-ci qui doit dater du 19e siècle, par exemple.
Bon, c'est un document qu'on a déjà lavé avec une solution de méthanol et hydroxyde de calcium, okay, pour des acidifier, premièrement. Après, on a fait notre étude sur les encres qui sont solubles à l'eau, solubles à, qui sont des encres métalliques. Donc ici, on va restaurer manuellement ce document avec des pâtes, différentes pâtes de Gympie qui est transparente, pâtes de fibre de papier. Papier permanent, bien sûr, qui sont les caractéristiques fibres longues, sans acide, sans pigments colorants. Donc, c'est destiné, c'est du papier, c'est destiné pour avoir une pâte. Mais un document comme ça, il a déjà 3 siècles, c'est déjà pas mal. Donc, le problème, c'est l'encre ici. C'est un document, l'encre qui l'a mis détériorer tout le genre de papier, les fibres qui sont cassées, les encres métalliques qui sont perforées le document.
On a l'impression, quand vous en parlez, que vous avez une mission, en l'occurrence, une mission de conserver justement des documents importants pour la nation tunisienne, et que cette mission, c'est justement de le faire au mieux, en l'occurrence. Et on a l'impression que vous êtes une sorte de militant, pourrait-on dire, de la restauration.
Oui, bien sûr. Oui. Pour nous et pour les autres encore.
Oui.
Pour les archives nationales, même pour toutes les administrations, toujours les archives nationales, il met les conseils, il fait les inspections pour ça, toujours, oui.
Et des Gelev, il y a des générations, des familles qui travaillent aux archives nationales, ou est-ce que ce sont des individus qui n'ont pas de lien les uns avec les autres
au non, je peux dire que ce sont des nationalistes.
C'est vrai?
Oui. C'est-à-dire des gens qui conservent la mémoire nationale, qui conservent les matériaux pour écrire notre histoire et pour démontrer qu'est la Tunisie à partir de ces archives. Les archives, c'est la souveraineté, c'est l'État. Et notre mission, notre devoir, c'est bien de bien conserver, de bien protéger cette source de notre souveraineté que sont les archives.
Merci, Monsieur Benamar, merci, Madame, merci, Messieurs, de nous avoir accueillis dans l'atelier de restauration. Nous allons le quitter pour aller dans un autre endroit de ces archives nationales.
On va aller dans la grande salle de traitement où les archivistes font la description des documents et pour alimenter la base de données et pour aider les chercheurs.
Ha ha ha! Ici.
Nessim Znaïem, nous entrons dans une des salles de ces archives nationales qui comprend certains des documents sur lesquels vous travaillez en tant que thésard, en tant qu'historien, doctorant, comme on dit.
Alors oui, typiquement, c'est un dossier qui est relatif à un homme, Gaston Dufay, qui est né en 1893. Donc la loi de conservation des archives permet d'ouvrir ce dossier. Alors donc, quand on ouvre le dossier, vous voyez, on a en face de nous une cinquantaine de papiers, c'est en vrac. Il y a plein de choses dans ces papiers. Il y a son certificat de naissance, ce Gaston Dufay. Il y a son certificat de mariage. Il y a des ordonnances médicales. Il y a la correspondance alors de sa femme avec l'administration. Et il y a tout un tas de papiers et à partir de ça, on essaye de recréer sa vie. Donc bon, alors c'est un homme qui est mort en 1958 et je pense que tout le monde, strictement tout le monde, l'a oublié depuis. Et en fait, on est premier à s'intéresser depuis 60 ans à cet homme. Bon, il est mort, il est né en 1893, c'est un Normand. Il est né en Normandie et il a participé à la Première Guerre mondiale. Il avait 20 ans, 21 ans quand la Première Guerre mondiale s'est déclarée. Il en est ressorti invalide.
Et c'est traumatisé par la Première Guerre mondiale qu'il va décider de s'installer en Tunisie.
C'est ça. Il décide de s'installer en Tunisie avec sa femme. Juste après la Première Guerre mondiale, il est effectivement traumatisé. Et il a un fils avec elle. Alors, il s'installe près de Bizerte, dans une ville qui s'appelle Ferryville. Ils ont un fils en 1923. Mais progressivement, les démons du passé vont ressurgir. Et en fait, il va finir par être interné. Alors, son premier certificat d'internement à l'hôpital psychiatrique, c'est en 1943. Et alors là, on a en face de nous le papier en question de son internement. C'est assez impressionnant. Je vais vous le lire. Démence éthylique avec effondrement global intellectuel et affectif. Désordre des idées, des actes, impulsivité, agitation, excitation, dysenterie, tremblement généralisé, gloutonnerie. Et donc ça, c'est le dossier médical, parce qu'à côté, il y a un dossier policier. Scandale sur la voie publique, menace envers son entourage, exhibitionnisme, attentat à la pudeur, disparition de tout sens et de tout sentiment éthique. Bref, il est complètement détruit.
Et détruit par la guerre en partie.
Détruit par la guerre en partie. Alors, c'est pas forcément tout le temps dit comme ça, mais c'est une hypothèse qu'on peut émettre. Alors, il fait un premier séjour à l'hôpital en 1943. Il y retourne un an et demi plus tard. Et là, il va rester jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il va y rester pendant une bonne quinzaine d'années. Et son poids va descendre d'une manière drastique, c'est-à-dire que il faisait à peu près en 45 quand il rentre à l'hôpital psychiatrique. Là, on a un dossier justement de sa courbe de poids, il fait aux alentours de 75 kilos.
Il finira à 50 kilos.
Il finit à un peu moins de 50 kilos. Et en fait, c'est l'ironie du sort, c'est que son fils aussi est interné à l'hôpital psychiatrique en même temps que lui, quelques années après son entrée. Et du coup, il reste plus que sa femme qui essaye de refaire sa vie et qui a aussi des soucis. Et bon, du coup, Gaston Dufay rend l'âme en 1958, il a 64 ans, mais il aura passé le bon dernier tiers de sa vie à l'hôpital psychiatrique.
Ce qui est intéressant dans votre travail de thèse, Nassim Znaïen, c'est que vous explorez tous ces champs qui sont très nombreux, politiques, policiers, médicaux, commerciaux, économiques, de cette consommation d'alcool en Tunisie, et que ça, effectivement, c'est une particularité, c'est que un tel sujet peut permettre d'entrer par tous les biais dans la société coloniale.
C'est effectivement l'avantage d'un sujet sur la culture matérielle, et en plus l'alcool a ce côté-là d'être aussi en rapport avec un élément légal et illégal. Pour ce qui est de Gaston Dufay, en fait, c'est un parcours assez atypique par rapport à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique est avant tout un instrument répressif, un instrument policier où les gens restent en fait assez peu de temps parce que il s'agit de soustraire à la vue de la société des individus dont on juge le comportement amoral. Mais il s'agit en aucun cas de soigner les gens. Il s'agit juste d'essayer de les cacher.
Parmi vos sources, il y a aussi ces sources de voyageurs qui sont surpris de la particularité de ce territoire musulmans qui néanmoins autorisent l'alcool et qui, d'une certaine façon, sont presque choqués. Ils se disent, mais quoi, il n'y a pas cet exotisme auquel on s'attendait, ce thé à la menthe qui remplacerait l'alcool. Ben non, en l'occurrence, ici, on consomme de l'alcool et ça se voit et ça ne leur plaît pas.
Oui, bah oui. Alors typiquement, il y a un homme qui visite la Tunisie dans les années 1890, qui s'appelle l'abbé Buneau, des œuvres pontificales missionnaires, c'est son affectation. Et alors, donc, il visite avec son ami la Tunisie, notamment le sud de la Tunisie. Et là, du coup, on a une archive où il rentre à Tozeur, donc dans le sud-ouest de la Tunisie, et il voit une boutique avec un drapeau français, et il y a du monde autour de cette boutique. Il est super content. Et donc il dit, c'est super finalement, la France permet de... enfin, les gens sont fiers d'aller dans des boutiques françaises. Il se rapproche de cette boutique, et en fait il s'aperçoit que les gens ne sont là que pour acheter de l'absinthe à 75 centimes le litre. Et alors il finit en disant que cet homme-là vende des denrées coloniales et réalise promptement une brillante fortune, c'est son affaire, mais c'est quand même dommage, il le fait avec le drapeau national français. Donc même pour lui, même pour cet homme d'église, ça pose pas problème que le français s'enrichisse, ça pose problème qu'il vende de l'alcool à des Tunisiens musulmans. Dans laquelle on entre, qui porte un numéro qu'on ne dira pas, parce que c'est une salle mystérieuse. Et c'est quoi cette salle dans laquelle nous trouvons...
La salle est dédiée aux documents précieux.
C'est ça, c'est donc le coffre-fort d'une certaine
façon. C'est le coffre-fort des archives nationales où on conserve les documents qu'on a vus tout à l'heure, ouais. La constitution de 1861, la constitution de 2014.
Oui.
Le protocole de l'indépendance, les conventions de l'autonomie interne, les traités, les protocoles avec les pays étrangers, avec la France de 1710, avec l'Angleterre, avec la Prusse, avec l'Italie, le Portugal, l'Espagne, tous les documents qui ont entré avec la souveraineté.
Et comment on choisit au bout du compte de privilégier tel et tel document pour entrer dans ce saint des saints des archives nationales de Tunisie, plutôt que de le laisser avec les autres au bout du compte? Est-ce qu'il y a une sorte de jugement de Salomon, pourrait-on dire, qui dit ça c'est de ce côté-là et ce document va de l'autre?
Non, mais généralement ce sont les traités.
Ouais.
Ce sont les traités que la Tunisie avait signés avec d'autres pays. Et dont on a une seule copie. D'ailleurs, toutes les archives, on a une seule copie.
Et les archives de souveraineté, d'une certaine façon.
C'est ça. Les archives de la souveraineté sont conservées dans ce magasin.
Dans de belles boîtes rouges.
Oui, c'est ça. Ce sont des traités.
Le résident à Tunis, donc... Avenant à la Convention postale et télégraphique du 20 mars 1888 entre le président de la République française et son Altesse le B de Tunis. Effectivement, des traités sur des relations particulières liées à l'arrivée de la télégraphie. Ouais. Voilà, magnifique sceau de la République française datant de 1891. Une convention qui a été approuvée et acceptée par le président de la République. De toute façon... Puisque c'était ses services qui l'avaient rédigé, c'était assez simple. Et là,
c'est la traduction en arabe.
Ah oui, parce que chaque document...
Avec le sceau du B.
Oui. Et voilà. Et donc, tout cela dans du très beau velours rouge, parce que quand on conserve les documents,
ils sont,
c'est important.
Ils sont restaurés, traités, restaurés.
Et ça fait partie effectivement de l'histoire nationale tunisienne que de la conserver dans le meilleur les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, voilà. Une très belle reliure de cuir rouge.
Je pense que c'est les conventions de l'autonomie interne.
Ah c'est oui, ça. 1955.
C'est les annexes de la convention générale entre la France et la Tunisie.
On est à la toute fin de la période coloniale.
La période coloniale. Et un an après, la Tunisie a accédé à son indépendance, signée à Paris le 3 juin 1955.
Ça, c'est la convention entre la France et la Tunisie. Et donc, c'était la préparation de cette indépendance.
Ça, c'est les annexes.
Voilà, c'était l'indépendance tunisienne sur un très beau papier imprimé, évidemment, à l'imprimerie nationale à Paris en 1955. Oui. Eh bien, on va vous laisser avec ces magnifiques documents, en l'occurrence, qui disent la richesse à la fois des relations entre la France, évidemment, et la Tunisie, mais également la richesse de ces archives nationales que vous dirigez.
Ouais. Un historien qui travaille aux archives nationales, c'est un bonheur total.
Ah oui, parce que vous avez sous la main votre matériau de travail, d'une certaine façon.
Mais malheureusement, je ne trouve pas le temps pour exercer mon métier d'historien.
Mais vous le ferez sûrement un jour.
Administratif, absolument, absolument. Oui.
Et vous saurez peut-être...
J'ai encore le temps.
Et vous saurez peut-être mieux que d'autres ce qu'il faut chercher et où il faut chercher, puisque vous avez dirigé ces archives pendant très longtemps.
Absolument.
Cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille avec l'aide de Maïté Pioffé. Éric Audra était à la technique pour l'enregistrement en Tunisie et Renaud Dalmar à la réalisation. Tous nos remerciements à Karima Diresh qui dirige l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis, l'IRMC, et à tout le personnel de l'IRMC qui ont rendu possible cette mission en Tunisie, ainsi qu'à l'Institut français de Tunisie. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission, ainsi que celle de vendredi dernier où nous interrogeons Farah Ached autour justement de cette question de la possibilité d'accéder aux archives de la dictature tunisienne, mais également attendre demain et après demain pour la suite de cette série consacrée à la façon dont on écrit l'histoire donc en Tunisie 5 ans après la Révolution. Et ces émissions, bien entendu, sont à écouter sur franceculture.fr.